Vous écoutez
Le Modèle Standard,
un podcast gastronomique
de Nicolas Graner
et Valentin Villeneuve.
Aujourd'hui,
exoplanète du bruit dans la lumière.
Bonjour Valentin.
Salut Nicolas.
Pour notre épisode d'aujourd'hui, je te propose un sujet, les exoplanètes.
Les exoplanètes, c'est les planètes où on va pour faire ses exercices, c'est bien ça?
Mais non, c'est les planètes extrasolaires, celles qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil.
Ah, il y a des planètes qui tournent autour des étoiles.
Oui, ça c'est vraiment un sujet très très chaud en ce moment. Ça fait à peu près 25 ans qu'on sait les détecter, et on en détecte des milliers maintenant, par plein de méthodes différentes. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus.
Ouais.
Et en plus, ça nous apprend des choses indirectement sur notre système solaire aussi.
Et on pourrait même trouver, des extraterrestres
Ah bah ça, c'est le rêve de beaucoup de gens, mais on n'en est pas encore là.
Bon, mais alors, il faudrait que je trouve une chanson qui parle de planètes.
Ou sinon, tu sais, en fait, ce n'est pas tellement les planètes elles-mêmes qu'on observe, c'est la lumière de leurs étoiles. Donc, tu as peut-être des choses sur les étoiles.
Ah, bah les étoiles, oui. Twinkle, twinkle, little star.
Dirais-je maman.
Oui.
Une chanson d'enfant.
C'est une chanson qui date du 18e siècle, hein. C'est une chanson très ancienne. Et notamment, il y a Mozart qui a fait des variations là-dessus. Ça fait partie du répertoire des grands tubes des classes de piano.
Alors là, effectivement, clignote, clignote, petite étoile, ça pourrait le faire. Enfin, c'est pas très jazzy quand même.
Ouais. Alors, il y en a une, c'est Quiet Nights of Quiet Stars. Tu sais, c'est une chanson qui fait Quiet Nights of Quiet Stars. Quiet chords from my guitar, da na 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 na. Tu sais, c'est une chanson très 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 jolie.
Ah, les nuits tranquilles des étoiles silencieuses. Alors là, en fait, c'est juste le contraire, si tu veux. Faudrait mettre, parce que la lumière des étoiles, elle bouge à cause des planètes qu'il y a autour.
Ah.
Ça fait du bruit dans le signal qu'on reçoit des étoiles.
Ah, alors du coup, ça serait pas quiet, ça serait noisy light of busy stars. Les étoiles qui sont très, très occupées.
Très occupées, voilà.
Plein de choses.
Ça le fait, ça me va.
Ok, bon, noisy light of busy stars. En plus, ça va me permettre de parler de Latin jazz, du jazz d'Amérique latine. Donc ça va être super.
D'accord, écoute, on va voir ça. Faut peut-être que je te donne un petit peu de matériaux pour les paroles,
ah,
déjà.
Ah oui, il me faut du biscuit, hein. Alors, donc les exoplanètes, mais donc tu me dis c'est une découverte récente finalement.
La confirmation qu'elles existent vraiment, oui, ça date des années 1990, mais on le soupçonnait depuis longtemps. Hein. En fait, c'était un débat déjà dans l'Antiquité. Pour Aristote, il y avait le monde sublunaire, donc tout ce qui est la Terre, l'atmosphère, tout ce qui est en dessous de la Lune,
ouais.
Qui était un monde très variable, imprévisible, avec des choses qui naissent, qui meurent, etc. Et puis tout ce qui est autour, la Lune, le Soleil, les étoiles, les planètes.
Et ça, c'est éternel.
Ça, c'est éternel, c'est que des cercles parfaitement réguliers. Mais déjà à l'époque, il y a des gens qui disaient « Non, peut-être que les étoiles, en fait, c'est des soleils comme le nôtre et qu'il y a des mondes autour, peut-être des habitants.
Bon, » Ah ouais.
Mais ça restait purement spéculatif, bien sûr.
D'accord.
Et ça a continué. Alors, au Moyen-Âge, l'Église a repris les idées d'Aristote. Et du coup, ça collait bien avec la Genèse qui dit « Dieu a séparé le ciel et la terre ».
Oui.
Ça arrangeait bien.
La Bible est un texte scientifique de référence, hein, c'est bien connu.
Elle l'était en tout cas jusqu'au 16e ou 17e siècle. Parmi ceux qui ont eu des ennuis à cause de ça, le plus connu, c'est Giordano Bruno. C'est un philosophe du 16e siècle et qui a été brûlé pour avoir dit des choses comme, par exemple, le fait qu'il y avait des mondes multiples, qu'il y avait des habitants partout autour des étoiles, dans tout l'univers.
Et à cause de ça...
Ça a pas mal fait réfléchir Galilée quand lui, il a annoncé ses découvertes.
Et il a eu des petits pépins aussi.
Il a eu des pépins aussi. Alors là, c'est vraiment là que tout a basculé, parce que quand Galilée a observé des taches sur le Soleil, des montagnes sur la Lune, des satellites autour de Jupiter, là ça devenait clair que... Il n'y avait pas vraiment de différence entre notre monde et ce qui se passe dans l'espace. Quelqu'un qui a très bien popularisé cette idée, c'est Fontenelle, un philosophe et scientifique du XVIIe siècle, donc un peu après Galilée. Et notamment son livre le plus connu, c'est l'Entretien sur la pluralité des mondes,
ah oui.
Où il raconte des conversations avec une belle marquise qui drague un petit peu tous les soirs dans son jardin. Et en même temps, pour la séduire, il lui parle d'astronomie. Il lui explique qu'il y a des habitants sur la Lune, sur Vénus, etc. Écoute, si tu veux, j'ai un passage là où il parle justement de ces autres étoiles.
Alors oui, il dit... Une étoile fixe est lumineuse d'elle-même comme le Soleil, par conséquent il faut qu'elle soit comme le Soleil le centre et l'âme d'un monde, et qu'elle ait ses planètes qui tournent autour d'elle. Et la marquise lui demande, cela est-il d'une nécessité bien absolue? Il répond, vous convenez que quand deux choses sont semblables en tout ce qui me paraît, je les puis croire aussi semblables en ce qui ne me paraît point, s'il n'y a rien d'ailleurs qui m'en empêche. Les étoiles fixes ressemblent à notre Soleil, je leur attribue tout ce qu'il a. Alors elle lui demande, ne faut-il pas pourtant que les mondes, malgré cette égalité, diffèrent en mille choses, car un fond de ressemblance ne laisse de porter des différences infinies? Et il répond, assurément, mais la difficulté est de deviner. Que sais-je? Un tourbillon a plus de planètes qui tournent autour de son soleil, un autre en a moins. Dans l'un, il y a des planètes subalternes qui tournent autour de planètes plus grandes. Ah ouais, des satellites carrément. Dans l'autre, il n'y en a point. Ici, elles sont toutes ramassées autour de leur soleil et font comme un petit peloton, au-delà duquel s'étend un grand espace vide qui va jusqu'au tourbillon voisin. Ailleurs, elles prennent leur cours vers les extrémités du tourbillon et laissent le milieu vide. Je ne doute pas même qu'il ne puisse y avoir quelques tourbillons déserts et sans planète. Voilà, donc des étoiles sans planète. Mais la plupart, elles en ont quoi.
Voilà, mais c'est assez extraordinaire, parce que là, bien sûr, c'est que de la spéculation, hein. Il n'y a aucune observation là derrière. Il dit, d'une part, par analogie, puisque les étoiles ressemblent au Soleil, il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas de planète. Mais d'autre part, il n'y a pas non plus de raison qu'elles soient vraiment identiques aux nôtres. Il peut y avoir plein de variétés.
Oui, et tout il ça, fait la liste de toutes les variations possibles.
Et ça, c'est exactement ce qu'on observe maintenant.
Ah ouais, donc là, on est fin
1686, la publication de ce livre.
Ah ouais.
Après, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Là, j'ai choisi ce passage parce qu'il fonctionne bien. Il y a aussi beaucoup de bêtises dans ce qu'il dit. Hein.
Ah, bon.
Notamment, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est les êtres vivants. Et alors, lui, il en voit partout, sur la Lune, sur toutes les planètes.
Oui. Et aujourd'hui, on se dit que...
Eh bien, on se pose toujours la question, en fait. Alors, un des premiers qu'il a abordé, disons, de façon un peu plus scientifique,
ouais.
C'est Frank Drake, un astronome américain,
ouais.
Qui est toujours vivant d'ailleurs, il est assez âgé. Mais là, ce qui est vraiment attaché à son nom, c'est ce qu'on appelle l'équation de Drake, qui date de 1961,
ouais.
Où il a essayé d'estimer combien il pouvait y avoir de civilisations technologiquement avancées dans la galaxie, autrement dit, avec qui on puisse communiquer.
Ah oui, alors il a fait un calcul et il est arrivé à un nombre.
Il a essayé en tout cas. Alors, il a établi une équation qui, elle, ne fait pas trop de doutes, disant que c'est le produit de plusieurs facteurs. Le nombre d'étoiles qui se forment dans la galaxie, le nombre d'étoiles qui ont des planètes, la proportion de planètes qui seraient habitables, la proportion parmi celles qui sont habitables, la proportion sur laquelle il y a une civilisation, etc. Bon, ouais. Il y a 7 facteurs comme ça en tout.
D'accord.
Et ça paraît assez évident qu'il faut les multiplier.
Okay.
Le seul problème, c'est qu'on ne connaît aucun des 7.
Ah bon ? On ne connaît même pas le nombre d'étoiles
Alors, à l'époque, en 1961, il a fait des estimations de tous ces facteurs.
Ouais.
Et il est arrivé à l'idée qu'il devait y avoir... quelques civilisations dans la galaxie avec qui on pourrait communiquer.
J'adore la précision. Mais...
Non, alors je ne sais plus, il a donné un nombre, mais ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, au même moment, d'autres gens ont estimé des nombres tout à fait aussi raisonnablement que lui, et ça allait après de plusieurs milliers de civilisations à beaucoup moins qu'une.
D'accord.
En gros, voilà, si tu multiplies 7 termes et que sur chacun, tu as en fait pas la moindre idée de sa valeur, le produit ne veut pas dire grand-chose.
Oui.
Donc voilà, c'est un outil théorique intéressant. Mais non, ce qui est intéressant quand même, c'est que du coup, ça a motivé des recherches pour essayer d'établir un peu plus sérieusement la valeur de ces différents facteurs.
Mm.
Et en particulier, un facteur très important, c'est le nombre d'étoiles qui ont des planètes.
Ah bah oui.
Alors Drake avait mis un peu arbitrairement 0,5, c'est-à-dire une étoile sur deux,
ouais.
Mais on n'en savait absolument rien.
D'accord.
Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles...
On est parti à la chasse aux exoplanètes.
Exactement.
D'accord. Alors, je vais pouvoir essayer de commencer un petit peu ma chanson. En reprenant la mélodie de Quiet Night of Quiet Stars, ça pourrait donner quelque chose du style... Noisy lights of busy stars.
La lumière bruitée des étoiles affairées, oui, c'est
ouais.
Bien ça.
A long time interest of ours.
Qui nous intéresse depuis longtemps.
Sleek scintillating objects.
Des objets lisses et scintillants.
Could you be hiding something else?
Se pourrait-il que vous cachiez autre chose? Ah ouais, c'est bien la question.
Voilà. Bon, la chanson, donc, Quiet Night of Quiet Stars, en fait, le titre d'origine, c'est Corcovado. Corcovado, c'est...
Corcovado, c'est pas un truc à Rio de Janeiro, un quartier ou une colline
Oui, bah c'est la grande colline en haut de laquelle, tu sais, il y a une statue du Christ qui ouvre les bras, etc.
Ah oui, c'est celle-là.
Voilà, ça fait vraiment partie du paysage de Rio de Janeiro. Et en fait, donc, c'est une chanson à l'origine en portugais. Et le monsieur qui l'a écrit était un immense musicien brésilien, Antonio Carlos Jobim, qui a eu un rôle... déterminant sur toute la musique, non seulement du Brésil, mais d'Amérique latine et même du monde entier, juste après les années 50. Donc c'est une chanson brésilienne. Elle a été enregistrée notamment par un chanteur brésilien qui était très très connu à l'époque. Alors je vais essayer de prononcer son prénom. João Gilberto. Gilberto, c'est son nom de famille. Gilberto est parti aux États-Unis. Et au début des années 60, en 1963 plus précisément, il y a un disque entre donc Gilberto et un saxophoniste de jazz qui était Stan Getz, où il y a plusieurs chansons de Jobim, dont Quiet Night of Quiet Stars, puisque entre-temps ils ont mis des paroles... en anglais.
Mais c'est pas du tout la traduction de Corcovado, alors ils ont...
Ça veut rien dire du tout, ça n'a aucun rapport. Si, disons que à l'origine, la chanson de Jobim, en gros, il est tout seul le soir avec sa guitare et il y a Corcovado qui est juste derrière lui. Et enfin, voilà. Donc on a quand même cette ambiance un peu méditative dans les paroles en anglais. Alors, Gilberto prononçait très mal l'anglais, ce qui était un problème. Et Stan Getz a eu l'idée de proposer à la copine de Gilberto, qui s'appelait Astrud Gilberto, c'était même sa femme en fait, qui était toute jeune, elle avait 20 ans et quelques, de participer, de chanter aussi. Alors lui, il n'était pas très très chaud pour laisser sa femme participer à l'enregistrement, mais elle parlait bien anglais, donc c'était... Et elle a chanté donc sur cette chanson et sur une autre chanson qui est devenue aussi très 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 connue sur le même disque, c'est The Girl from Ipanema. Tu sais, ça fait... etc.
Ah oui, là on n'est plus dans le même style méditatif pour le coup.
Non, mais c'est toujours une chanson romantique, avec toujours des rythmes un peu chaloupés. Et bon, ce disque a fait un tabac aux États-Unis, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est des standards de jazz que tout le monde connaît. D'ailleurs, pour la petite histoire, João Gilberto, finalement, il avait peut-être pas tort de se méfier un peu du fait que sa copine participe au disque, parce que finalement, au bout d'un moment, elle est partie avec le saxophoniste Stan Getz.
Ah, là. C'est dangereux la musique.
Voilà, c'est un monde impitoyable. Donc en tout cas, ce disque, à lui tout seul... a fait connaître la musique de Antonio Carlos Jobim. Alors, tu sais, c'était un très très bon musicien qui jouait très bien du piano, qui connaissait très bien la musique savante de Debussy, tous ces compositeurs-là. Et il jouait un peu de guitare aussi. Mais quand il a voulu faire son premier disque aux États-Unis, les producteurs, ils ont dit « Alors, non, 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 non. Toi, tu joues pas du piano, tu joues de la guitare. »
Parce qu'il est brésilien.
Et voilà, c'est le Latin lover, tu sais. Alors non, 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 faut pas faire du piano, faut faire de la guitare.
Les gros clichés.
Exactement. Donc, on a vraiment une déferlante sur le monde du jazz, toute la musique populaire de tout le demi-siècle qui va suivre, qui va être la vague de la musique latino-américaine, et en particulier de la bossa nova.
Ah, la bossa nova, c'est quoi? C'est la nouvelle bossa, c'est ça? C'est une danse?
Oui, alors, contrairement à, par exemple, il va y avoir le tango nuevo avec Astor Piazzolla en Argentine, oui, qui est le nouveau tango, mais le tango, ça existait déjà depuis bien longtemps. La bossa, ça n'existait pas. Bossa tout court, ça veut juste dire la mode. Bossa nova, c'est la nouvelle mode, en fait, en
D'accord,
gros.
D'accord, la nouvelle vague.
La nouvelle vague, exactement. Et donc, vraiment, Antonio Carlos Jobim, à lui tout seul, quasiment, il va... lancer ce nouveau style de musique qui combine des rythmes traditionnels latino-américains et des harmonies extrêmement sophistiquées, héritées non seulement du jazz, mais aussi de la musique savante, puisque, comme je te dis, c'était un pianiste de formation classique.
D'accord, mais tu pourras m'expliquer plus en détail ces rythmes et ces harmonies ?
Ah ben, bien sûr, mais peut-être au prochain couplet, parce que là, j'ai déjà beaucoup parlé. Alors, ben, pour le prochain couplet, je vais peut-être pouvoir commencer à parler de ces fameuses planètes, parce que tu me disais, en regardant bien la lumière des étoiles, de temps en temps, on doit voir une planète qui passe devant ou...
Ça, c'est effectivement une des nombreuses méthodes qu'on peut penser à utiliser pour détecter les exoplanètes.
Ouais.
On appelle ça la méthode des transits.
D'accord.
Un transit d'une planète, c'est simplement quand elle passe devant une étoile pour nous, c'est-à-dire entre l'étoile et nous.
Ça fait une éclipse, quoi.
Une sorte de mini-éclipse. Alors, dans le système solaire, on en a des transits, hein. Il y a Vénus et Mercure qui sont entre le Soleil et nous, et de temps en temps, ils passent devant le Soleil, mais on ne s'en rend pas compte si on n'observe pas. C'est un tout petit point noir qui masque à peine la lumière, ce n'est pas du tout comme une vraie éclipse. Et quand on parle d'exoplanètes, c'est-à-dire d'étoiles qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lointaines que le Soleil, là, il n'est même pas question de voir un point noir, puisque l'étoile elle-même, on ne la voit que comme un point. En fait, ce qu'on peut espérer observer, c'est que la lumière, la luminosité de l'étoile va très, très, très légèrement diminuer.
Pendant un petit moment.
Pendant un petit moment. Et si ça se reproduit périodiquement, à ce moment-là, on peut penser que ce n'était pas un phénomène isolé, mais que c'est bien quelque chose qui tourne autour de l'étoile. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand je dis diminuer très légèrement, c'est vraiment très, très, très légèrement.
Du genre ?
Ben pour te donner une idée, si quelqu'un regardait notre système solaire depuis une autre étoile, quand Jupiter passe devant le Soleil, donc la plus grosse de nos planètes, la lumière du Soleil baisserait de 1 milliardième à peu près.
Ah, 0,001, tu mets 9 zéros.
C'est ça. Donc t'imagines la précision qu'il faut. D'autant plus que quand tu regardes une étoile normalement, sa lumière, elle n'est pas constante. On la voit, rien qu'à l'œil nu, on la voit déjà scintiller.
Ah oui, c'est vrai, ça clignote un petit peu.
Ça clignote un petit peu. Alors ça, c'est un phénomène atmosphérique. Ce n'est pas la lumière de l'étoile elle-même qui varie. C'est quand la lumière traverse notre atmosphère, ben, y a du vent, il y a des nuages, il y a de la vapeur d'eau à différents endroits et tout ça, ça bouge. Et ça fait que nous, on a l'impression de voir la lumière varier. Et ça, ça varie de beaucoup, beaucoup plus qu'un milliardième.
Ah oui, donc il faut arriver à faire la part de ce qui vient de notre atmosphère.
Et ce qui vient de l'étoile. Et ce n'est pas tout, parce que même la luminosité de l'étoile elle-même, intrinsèquement, elle peut varier.
Ah bon ?
Le soleil, par exemple, il ne brille pas toujours exactement autant. Il y a des éruptions solaires. Tu sais, c'est une grosse boule de gaz. Ça remue beaucoup là-dedans. Il y a des courants, donc il y a des moments où il y a des masses plus chaudes qui vont arriver à la surface, d'autres moins chaudes, etc. Donc, les variations de la lumière de l'étoile, celles-là, on ne peut vraiment pas les prévoir.
Ah oui, donc du coup, il faut arriver à différencier tout ça. Et ce qui va nous aider vraiment, c'est de voir si ça revient régulièrement alors.
Oui, en fait, c'est un problème de ce qu'on appelle extraire le signal du bruit. C'est-à-dire, on a une information qui nous arrive, qui varie tout le temps. Et à l'intérieur de ça, il y a une toute petite variation, encore plus petite que les variations habituelles, mais qui, elle, est périodique, et c'est celle-là qu'on va essayer de détecter.
Ah oui.
Donc ça, c'est une méthode qui fonctionne. Maintenant, c'est celle avec laquelle on a détecté le plus d'exoplanètes, en fait.
Mais dis donc, ça doit marcher uniquement pour les planètes qui tournent relativement vite, parce que si une planète met du genre 200 ans à faire le tour de son étoile, il va falloir qu'on soit sacrément patient.
Donc. Effectivement, on va avoir quelques difficultés. Et le fait que maintenant, on fait ce genre d'observation depuis plus de 20 ans, ça nous a permis aussi de détecter des planètes qui ont des périodes assez longues, mais quand même pas trop, trop longues.
D'accord.
Mais il y a une autre difficulté aussi, c'est que ça ne fonctionne que si la planète passe entre l'étoile et nous.
Ah.
C'est-à-dire, en quelque sorte, si on voit son orbite par la tranche.
Ah bah oui, parce que nous, dans le système solaire, on tourne tous à peu près sur le même plan, alors que les autres systèmes, si ça se trouve, ils sont penchés par rapport à nous.
Bien
on
sûr.
Voit les étoiles par au-dessus ou par en dessous.
Bien sûr, les autres systèmes stellaires, il n'y a aucune raison qu'ils soient orientés comme le nôtre. Et donc là, c'est un simple problème de géométrie. Si tu mets des étoiles aléatoirement dans l'espace et que tu fais tourner des planètes selon tous les plans possibles, on peut calculer très simplement qu'il y en a à peu près 5% qui passeront à un moment ou à un autre entre l'étoile et nous. Donc de toute façon, par cette méthode-là, on ne peut pas espérer détecter plus de 5% de toutes les planètes de la galaxie.
5%, ah oui, c'est sûr que là, ça ne laisse pas beaucoup de chance.
Est-ce que tu peux faire un couplet avec ça, tu crois ?
Ah oui, attends, ce que je pourrais faire, Twinkling, twinkling, little dots.
Ah, c'est comme dans Twinkle, Twinkle, Little Star, là. C'est des petits points qui clignotent.
Turn into slightly darker spots.
Se change en taches légèrement plus sombres.
We've got a chance to take a glance it.
On a une chance de jeter un coup d'œil, ça.
May indicate a transit.
Pourrait être le signe d'un transit.
Voilà.
Ah, glance it, transit. Oui, tu lances dans les rimes.
Un enjambement. Alors évidemment, là, j'ai été très lentement pour te laisser le temps de comprendre et de traduire. Hein.
Merci, merci, c'était trop bon.
Mais la bossa nova, ça repose sur une construction rythmique qui est extrêmement chaloupée et dansante. C'est le 3-3-2.
3-3-2, c'est une formation au foot, ça, non?
Alors, s'agissant du Brésil, déjà, on ne plaisante pas avec le foot. C'est la religion nationale. Mais non, 3-3-2, c'est simplement si tu prends une mesure à 4 temps, 1, 2, 3, 4. Si tu rajoutes toutes les petites croches qu'il y a à l'intérieur, 1 et 2 et 3 et 4 et, ça t'en fait 8.
Jusque-là, ça va.
Sauf qu'au lieu de les articuler en mettant un accent toutes les deux, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tu vas faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc sur les 8 que tu as, ça te fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4.
Donc tu changes simplement les temps accentués par rapport aux non accentués, tu les répartis différemment.
C'est ça, et ça c'est vraiment la base de toute la musique du continent sud-américain, en partant du Montuno cubain, en allant jusqu'à la Milonga de la cordillère des Andes, t'as vraiment, voilà, tu trouves ça dans la bossa, tu trouves ça vraiment partout. Souvent d'ailleurs, ce qu'on va utiliser pour faire ce rythme, ça va être les claves. Tu sais, c'est deux bouts de bois cylindriques qu'on tape l'un sur l'autre.
Oui, qui font un son de bois creux.
Ben, de bois creux parce que tout simplement, tu fais un creux avec ta main dans la façon dont tu le tiens. Il y a toute une manière de tenir la clave. C'est juste un bout de bois, mais on peut en jouer très bien ou très mal. Et donc du coup, vraiment ce 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Alors, parfois, on va construire ça sur deux mesures à quatre temps, donc huit temps en tout. Alors, sur la première, on va faire donc cette petite décomposition en 3-3-2 dont je te parlais. Et sur la deuxième, en général, on va faire seulement deux appuis ou trois. Ça varie un petit peu, mais en général, la formule type, ça va être 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8.
Donc sur la première mesure, tu fais ce
3-3-2,
irrégulier 3-3-2, et sur la deuxième, quelque chose de régulier.
D'assez régulier, mais uniquement sur les deux temps au milieu. 5, 6, 7, 8. Voilà. Et bah vas-y, essaye de taper ça dans tes mains. Et... Voilà, tu vois, donc ça demande un petit peu d'entraînement, c'est sûr, mais ça va être une construction de base et une construction de basse même. Dans la ligne de basse, très souvent, ça va être ça. Par exemple, si je suis sur un accord de Do, je vais utiliser ma note Do et je vais utiliser la note Sol, qui est la quinte dans mon accord. Hein. Do, Sol, et le Sol grave éventuellement aussi. Do, Sol, Sol. Tu vois, je suis vraiment sur ce rythme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, chute. Ok. Et à côté de ça, tu as souvent à la guitare, tu as des accords qui sont répétés. Et là, la formule est un tout petit peu différente parce qu'il y a vraiment une formule spécifique à la bossa nova. Là, c'est plus quelque chose qui est commun à
tous les rythmes sud-américains.
Voilà. Alors là, on va commencer par 1, 2 et après, on va faire le « et » du 3. C'est-à-dire 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Ou alors, parfois, on va faire 5 et 6 et 7 et 8. Je te dis, tout ce qui se passe entre 5 et 8, ça, c'est quelque chose qui peut varier. Mais on a toujours ce 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc, du coup, ça va nous faire du... Donc ce 1, 2, 3 et 4, finalement, ce n'est pas du 3, 3, 2, c'est du 2, 3, 3, si je compte vraiment les petites croches qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment les structures rythmiques qui sont propres à la bossa nova et qui font qu'elle s'inscrit dans toute une tradition musicale rythmique sud-américaine.
Ah, c'est vraiment sud-américain, on ne trouve pas ça ailleurs ?
Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas vraiment occidental. D'ailleurs, tu sais, l'Amérique du Sud a été partagée entre l'Espagne et le Portugal. Et quand tu regardes les musiques qui existaient avant la colonisation en Espagne et au Portugal, c'était finalement surtout des musiques à trois temps. C'était très rarement des musiques comme ça sur quatre temps. Et moi, mon hypothèse, c'est que c'est vraiment l'apport des autochtones d'Amérique du Sud qui a provoqué cette vague, le tango, la habanera, toutes ces musiques à quatre temps qui n'existaient quasiment pas avant. Il y a aussi une autre influence très probable, c'est les musiques subsahariennes.
Ah, les esclaves qui ont été emmenés d'Afrique en Amérique du Sud.
Et ben voilà, toutes les rythmes comme ça à base de 3 et 2 qui se goupillent un peu les uns avec les autres. Tu trouves ça dans les traditions, par exemple, des populations bantoues dans ce coin-là. Donc très probablement, il y a eu une triple influence entre les Indiens d'Amérique du Sud, enfin ceux qui ne se sont pas fait massacrer malheureusement, les conquistadors les populations d'Europe et les esclaves africains.
Et on retrouve tout ça dans la bossa nova.
Et ouais, et ça c'est quand même pas rien.
Donc toi tu vas utiliser ces rythmes-là aussi dans ta version de la chanson ?
Ben, je vais essayer. Ben, de toute façon, là j'ai déjà fait deux couplets, donc ça va être le moment du refrain. Ah ben dis donc, on pourrait parler des planètes qu'on a réellement découvertes, parce que là, pour l'instant, tu m'as juste dit que c'était super difficile et qu'on avait du mal. Mais on a bien fini par en trouver, alors.
On a fini par en trouver, effectivement. Alors, la toute première, qui est encore un peu contestable, c'était en 1992. Celle-là, on l'a trouvée par une méthode qui est très, très particulière, parce qu'elle était autour d'un pulsar. Ça te dit quelque chose, un pulsar ?
C'est un truc qui pulse.
Très bien.
C'est une planète pour faire de la techno.
Alors, c'est pas une planète, c'est plutôt une étoile.
Ah.
C'est, quand on l'observe de la Terre, effectivement, c'est quelque chose qui envoie des bouffées d'ondes radio à intervalles réguliers, très très réguliers. Et en fait, le phénomène qui est derrière, c'est une étoile très très dense, une étoile à neutrons, qui tourne sur elle-même très rapidement, comme un phare qui tourne, si tu veux.
D'accord.
Surtout, la particularité, c'est que c'est extrêmement régulier. Il y en a de différents rythmes. Il y en a qui envoient plusieurs milliers d'impulsions par seconde.
Ah oui, ça tourne vraiment, vraiment vite.
Vraiment, vraiment vite. D'autres, c'est juste toutes les quelques secondes. Mais en tout cas, c'est les meilleures horloges qu'on connaît. C'est plus régulier que les horloges atomiques qu'on a sur Terre.
Ah ouais.
C'est vraiment incroyable. Sauf, justement, certains où il y a des très légères variations.
Des perturbations.
Des perturbations.
Du bruit dans le signal, c'est ça ?
Ça te rappelle quelque chose. Et donc, si ces perturbations sont régulières, périodiques, avec une période de quelques heures ou quelques jours, par exemple, eh bien, on peut penser que c'est une planète qui tourne autour de cette étoile. Et donc, suivant qu'elle s'approche, qu'elle s'éloigne régulièrement, elle va modifier très, très, très légèrement la vitesse de rotation de l'étoile.
Ah, et c'est donc ce qu'on a observé en 92 alors.
C'est ce qu'on a observé en 1992, effectivement, sauf que ça paraît très peu probable que ce soit vraiment une planète au sens où on l'entend, parce qu'il faut savoir d'où ils viennent ces pulsars.
Oui.
En fait, c'est le reste d'une étoile qui a explosé, qui a donné une supernova, une explosion absolument phénoménale qui souffle tout ce qu'il y a autour. Donc s'il y a des planètes semblables à la Terre, elles sont complètement vaporisées dans cette explosion.
Ah bon ? Et donc, ça peut pas être une planète qui est restée de quand c'était une étoile.
Voilà, ça on en est sûr. Alors ça pourrait être une planète qui soit arrivée après, qui a été capturée, ou ça pourrait être plutôt une étoile, c'est-à-dire que c'était une étoile double. Ah. Il y a une des deux étoiles qui a explosé, qui a soufflé toutes les couches volatiles de l'autre, et il ne resterait plus qu'une sorte de noyau de l'autre étoile, qui est donc un genre de planète. Dans un certain sens, on peut considérer que c'est la première planète qu'on a détectée autour d'un autre astre, mais elle n'est pas vraiment validée comme étant une planète au sens ordinaire.
Bon, ok. Bon.
Alors, la première vraie découverte, qui est maintenant totalement admise et reconnue, c'est peu de temps après, en 1995.
Ouais.
Et là, c'est par une méthode complètement différente, la méthode des vitesses radiales.
Des vitesses radiales.
Alors, la vitesse d'une étoile quand elle se déplace dans le ciel.
Oui.
Disons, on peut décomposer ça suivant une composante qui est le fait qu'elle se rapproche ou qu'elle s'éloigne de nous.
Oui.
Et puis, elle se déplace sur le côté, en quelque sorte. On peut la voir bouger sur le ciel.
D'accord.
D'accord. On peut décomposer son mouvement sur ces deux axes-là. La vitesse par rapport à nous, donc si elle se rapproche ou elle s'éloigne de nous, c'est ce qu'on appelle la vitesse radiale. Ça veut dire du rayon.
D'accord.
Ça se déplace sur le rayon qui la joint à nous. Bon. Et ça, la particularité de cette vitesse-là, c'est qu'on peut la mesurer extrêmement précisément grâce à l'effet Doppler.
Attends, mais c'est le truc des ambulances, là. Quand tu as une ambulance qui passe et que ça change de note.
Exactement. quand une source de son se rapproche de nous, on entend le son plus aigu, et quand elle s'éloigne de nous, on entend le son plus grave.
D'accord.
Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'elle va plus vite.
Mais tes étoiles, elles ne font pas du bruit.
Mais ces étoiles, elles ne font pas du bruit, mais elles font de la lumière. Et il y a exactement le même phénomène qui se passe. Ça s'appelle à ce moment-là l'effet Doppler-Fizeau. Le Doppler, il a étudié pour le son et Fizeau pour la lumière. Et ça fait que si tu as une étoile qui émet, mettons, de la lumière visible, hein, jaune ou blanche, quand elle va se rapprocher de nous, la lumière va être légèrement décalée vers le bleu. Et quand elle s'éloigne de nous, elle se décale vers le rouge.
Change de couleur.
Elle change très, très, très légèrement. Enfin, après, légèrement ou pas, ça dépend de la vitesse de l'étoile.
Ouais.
Mais c'est exactement le même principe que le son qui devient plus grave, plus aigu, la lumière devient légèrement plus bleue ou légèrement plus rouge.
D'accord.
Et ça, les changements de fréquence de la lumière, c'est des choses qu'on sait mesurer très, très précisément.
Mais d'accord, mais quel est le rapport entre le fait que l'étoile s'éloigne ou se rapproche de nous et qu'il y ait une planète autour ? On s'en fout de la planète, elle bouge.
Alors, pas tout à fait, parce qu'on dit toujours qu'une planète tourne autour de son étoile, ce qui n'est pas faux. Mais en réalité, c'est la planète et l'étoile qui tournent toutes les deux autour de leur centre commun.
Ah bon ?
La planète attire l'étoile autant que l'étoile attire la planète. Alors en général, ça fait un déplacement qui est très très faible pour l'étoile parce qu'elle est beaucoup plus massive que la planète. Donc c'est le petit corps qui va bouger autour du gros. Mais, mais ça fait quand même des petits déplacements. Et si la planète est suffisamment grosse, eh ben, elle fait bouger l'étoile d'une façon qui peut être mesurable.
Mais attends, par exemple, ça veut dire que chez nous, le Soleil n'est pas au centre du système solaire ?
Tout à fait. Il n'est pas loin du centre de masse, le centre de gravité, si tu veux, du système solaire. Et comme il y a en particulier Jupiter qui est très très massive, bon, beaucoup moins que le Soleil, mais quand même sensiblement, ça fait que le centre de masse est à l'extérieur du Soleil. Donc toutes les planètes tournent autour de ce point, qui est très proche du Soleil, et le Soleil lui-même tourne autour de ce point aussi.
Ah bon ? Et donc nous, c'est ce qu'on voit avec des étoiles lointaines ?
Avec certaines étoiles lointaines, si elles ont une planète qui est suffisamment massive pour la faire bouger de façon sensible. Et aussi, il vaut mieux que la planète soit assez proche, comme ça le déplacement est plus sensible aussi. Et en plus, comme ça, elle tourne plus rapidement aussi. Plus elle est proche de son étoile, plus elle tourne rapidement. Et donc, ça induit aussi des mouvements plus rapides de l'étoile. Ce qui veut dire qu'en regardant simplement la couleur d'une étoile, si on la voit changer très 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 légèrement, alternativement vers le bleu, vers le rouge, avec une période tout à fait régulière...
Eh bien, c'est comme un gyrophare. Oui, oui. Alors, <c'est... rire> Désolé, je suis dans les ambulances depuis tout à l'heure. Là.
Eh bien, c'est un indice qu'il y a une planète qui tourne autour d'elle. Et en plus, ça permet de connaître en plus la période de révolution de la planète, puisqu'on voit bien avec quelle période ça bouge.
Et oui.
Et d'avoir une estimation de la masse.
Mais attends, nous, on est sur Terre, on regarde une étoile. Ça veut dire que nous-mêmes, comme on tourne autour de notre propre Soleil, on s'en rapproche et on s'en éloigne. Alors ça crée un truc en plus, non ?
Il y a plein de mouvements. Si on mesurait simplement la vitesse radiale de l'étoile, c'est-à-dire à quelle vitesse l'étoile se rapproche de nous, là, il y aurait plein de facteurs d'erreur, effectivement. Il y a le déplacement de la Terre, il y a le déplacement du système solaire, qui se déplace aussi dans la galaxie.
Ah, ben oui.
Le déplacement de l'autre étoile, c'est pareil, elle a son propre système solaire qui peut se déplacer... Voilà, donc la simple mesure de la vitesse de l'étoile par rapport à nous ne nous donne pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est les variations de cette vitesse, si elles sont bien régulières et périodiques à ce moment-là. C'est comme tout à l'heure l'histoire d'extraire le signal du bruit. Mmh. On a énormément de variations en tout genre et il faut trouver la petite, toute petite variation périodique là-dedans.
Ah oui, c'est des calculs intenses.
Alors on peut même rajouter, il y a des effets encore plus subtils. Par exemple, le fait que l'étoile tourne sur elle-même.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a toujours un côté de l'étoile qui se rapproche un peu de nous et l'autre qui s'éloigne.
Ah, les deux moitiés de l'étoile n'ont pas la même couleur ?
Exactement. alors, on ne voit pas ça sous forme de deux couleurs différentes, mais on voit ça sous forme d'un élargissement. C'est-à-dire, si on regarde la fréquence lumineuse qui est émise par l'étoile, en fait, on ne va pas avoir une valeur bien précise.
Ça fait du flou, quoi.
Ça fait du flou, exactement. C'est tout à fait ça, et donc ça complique encore les mesures.
Et donc, malgré ça, c'est comme ça qu'on est arrivé à tout calculer pour arriver à conclure qu'il y avait une exoplanète autour de
l'étoile. Non pas calculer, mais mesurer, oui. On a construit des appareils exprès pour ça, qu'on met derrière des télescopes, des spectromètres qui peuvent mesurer des fréquences lumineuses avec une très, très grande précision. Et le premier qui a réussi, c'est Michel Mayor, c'est un astronome suisse, l'Université de Genève, avec son étudiant Didier Queloz. Ils avaient fait un spectromètre qui s'appelait Elodie.
Ah, c'est mignon.
C'est mignon. Hein. Après, ils ont fait Coralie, Sophie. Enfin, je sais pas.
C'est toujours des prénoms de filles.
Chez eux, oui, ce n'est pas une règle générale.
D'accord.
Qui était installé en fait, à l'Observatoire de Haute-Provence.
Ah, en France.
En France, ouais, ouais.
D'accord.
Cocorico. Donc, en 1995, voilà, pour la première fois, ils ont réussi à faire ces mesures qui prouvaient vraiment, de façon très convaincante, qu'il y avait une planète autour de l'étoile 51 Pégasi, c'est-à-dire la 51e étoile de la constellation de Pégase.
D'accord.
C'est comme ça qu'on nomme les étoiles. Et voilà, une découverte qui leur a quand même valu le prix Nobel en 2019.
Ah ouais. Ils ont mis un petit moment à s'en rendre compte quand même.
le Nobel, c'est toujours comme ça, hein, on ne l'a pas au moment où on fait la découverte.
D'accord.
Et donc le nom officiel de cette planète, c'est 51 Pégasi B. Quand on nomme une exoplanète, la première qu'on découvre autour d'une étoile, on lui donne le nom de l'étoile avec B, sous-entendu A, c'est l'étoile elle-même.
D'accord.
Et puis, si on en découvre d'autres, c'est des... Si
on D'accord, on n'est jamais arrivé à ça.
Bon, on pourrait y arriver. Donc, 51 Pégasi B, c'est vraiment la première exoplanète tout à fait validée. Et on peut aussi l'appeler Dimidium.
On lui a donné un nom comme ça.
On lui a donné un nom. En fait, en 2015, l'Union Astronomique Internationale a lancé une sorte de concours. Ah, et après, il y a eu un vote sur Internet.
D'accord.
Et ils en ont nommé un certain nombre, comme ça, dont Dimidium. Alors, Dimidium, ça veut dire un demi, la moitié.
Ouais.
C'est qu'elle a la moitié, à peu près, de la masse de Jupiter.
Ah oui. Donc, c'est une grosse planète, quand même. Hein.
Je t'ai dit que la méthode des vitesses radiales, ça marchait pour les planètes qui sont très massives et proches de leur étoile.
Ouais.
Et en l'occurrence, elle est donc la moitié de la masse de Jupiter, et elle fait le tour de son étoile en 4 jours seulement.
4 jours ?
Une année de cette planète, c'est 4 jours.
Ah oui, ok.
Ça veut dire qu'elle est 20 fois plus près de son étoile que nous, la Terre, on est près du Soleil.
D'accord, elle est vraiment juste à côté.
Elle est vraiment juste à côté. Et c'est ce qui fait qu'elle induit des déplacements suffisamment rapides de son étoile pour qu'on puisse les voir.
Donc ça, tu me disais, c'est la méthode des vitesses radiales.
Voilà, en anglais, radial velocity, si tu veux mettre ça dans ton refrain.
Ah bah, forcément, oui. Radio velocities.
Les vitesses radiales.
Help us detect large bodies.
Nous permettent de détecter des grands corps.
Never mind our complexities.
Aussi complexe que ce soit.
Voilà. Alors, j'appelle ça refrain, mais t'as vu, j'ai pas du tout fait comme dans la chanson d'origine, parce que dans la chanson d'origine, en fait, ce qu'il fait dans son refrain, c'est des gammes descendantes. Par exemple. Etc.
Alors, comme je te connais, toi, tu vas mettre des gammes montantes.
Oui, je t'avoue qu'effectivement, ça a été ma première idée. Mais je vais peut-être me garder mes gammes montantes pour plus loin dans la chanson. Là, tu as entendu, j'ai repris son idée de base. L'idée de base de Corcovado, c'est quoi ? C'est deux notes, hein, c'est une mélodie sur... Antonio Carlos Jobim, c'est vraiment quelqu'un qui avait ce sens... des mélodies très resserrées avec des formules qui se répètent. Par exemple, je te parlais tout à l'heure de The Girl from Ipanema, hein, son autre chanson très 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 connue.
Sur le même disque.
Voilà. Vous avez... Et tu vois, pareil, on a seulement trois notes. Et ça monte en boucle, les appuis se décalent, les harmonies surtout changent derrière. Et il a même fait, tellement il aimait bien les mélodies comme ça, très très resserrées, il a même fait une chanson entière qui s'appelle la samba sur une seule note.
Sur une seule note ?
Voilà.
Tu fais une mélodie.
Samba de uma nota, et en anglais, one note samba.
C'est juste un rythme alors.
C'est surtout un rythme, et surtout ce sont les harmonies derrière. Tu vois, on est vraiment dans une formule rythmique et des harmonies, etc.
C'est presque la musique minimale, non ?
Ça serait minimal s'il n'y avait pas tous ces accords, parce que les accords sont extrêmement riches pendant ce temps. On a des accords, tu sais, je t'avais parlé de la différence entre un accord parfait, seulement trois notes, et un accord enrichi, où on va rajouter une septième, une neuvième, voilà. Et vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'accords très, très riches chez Jobim. J'attire ton attention en particulier dans cette one note samba sur ce que fait ma basse. Écoute bien ma note grave avec ma main gauche. Qu'est-ce qu'elle fait là ?
Elle descend.
Elle descend et elle descend pas n'importe comment, elle fait une descente chromatique.
C'est-à-dire avec toutes les notes...
Voilà, c'est pas seulement la gamme des touches blanches du piano, c'est vraiment la gamme avec toutes les touches noires et blanches, tous les demi-tons. là je passe vraiment par tous les demi-tons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve fréquemment chez Jobim, cette conduite de la ligne de basse en passant par les demi-tons et tout. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer. Bon, alors ça sera sûrement pas sur une seule note, mais au moins sur deux notes, comme je te disais tout à l'heure.
Enfin, même sur deux notes, ça devient vite monotone et répétitif, non ?
D'abord, je suis pas d'accord. Et puis ensuite, tu peux faire des modulations. Bah, ce que fait Jobim, il commence avec mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi. Et après, il va faire ré, do, ré, do, ré, do, ré.
Ah oui, donc quand tu dis sur deux notes, c'est deux notes à la fois dans chaque phrase, mais sur l'ensemble du morceau, tu changes quand même.
Voilà, et d'ailleurs, c'est certainement ce que je ferai dans mon refrain. J'irai chercher des notes plus aiguës. Ta, 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 ou des choses comme ça. Je ne sais pas encore exactement lesquelles, mais ça ira chercher dans un autre registre. Bon, mais donc du coup, là, on arrive au prochain couplet. Alors... J'imagine qu'après avoir laborieusement observé une première planète en 1995, on en a trouvé d'autres quand même.
Bien sûr, une fois que la méthode est au point, tu sais, après, ça, en général, ça progresse très vite. Donc, dans les années qui ont suivi, on en a découvert quelques-unes par an, puis quelques dizaines. En 2000, on en connaissait, je crois, une quarantaine à peu près en tout.
Ouais.
Et puis ensuite, ça s'est multiplié, on en est arrivé à plusieurs... dizaines par an, et maintenant on est à plusieurs centaines. Au total, aujourd'hui, on en a plus de 4000 qui sont vraiment confirmés,
ouais.
Et encore plusieurs milliers d'autres qui ont été observés une fois, mais on attend de les revoir pour vraiment confirmer. Puisque tout ce qu'on observe, c'est des phénomènes périodiques. Ce qui prouve qu'on a bien une planète, c'est qu'on voit quelque chose qui se répète à intervalles réguliers.
Ouais.
Donc on a toujours des candidats qui ont été observés une fois, et puis des confirmés qui ont été revus plusieurs fois, et là on est bien sûr.
D'accord. Donc maintenant, ça se compte en milliers.
En milliers. En fait, c'est parce que maintenant, on a vraiment construit des instruments spécialisés. On ne se contente plus de mettre un spectromètre au bout d'un télescope qui n'avait pas été fait pour ça.
Ouais.
On a des instruments sur Terre et puis surtout des instruments dans l'espace. On a envoyé des satellites d'observation vraiment optimisés pour détecter les exoplanètes.
D'accord.
Et alors là, c'est fantastique. On se prémunit de tous les problèmes liés à l'atmosphère, aux vibrations, à tous les changements de température qu'il peut y avoir sur Terre. Enfin, dans l'espace, on a des choses qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus reproductibles.
D'accord.
Le premier satellite vraiment dédié aux exoplanètes qu'on a envoyé dans l'espace, il était français, il s'appelait Corot.
Corot comme le ventre, alors ?
Oui, c'est ça. Bon, c'est un acronyme. Les astronomes aiment beaucoup les donner à leur mission des noms qui sont jolis, qui veulent dire quelque chose.
Ouais.
Alors lui, il a volé de 2006 à 2014.
Ouais.
Et entre-temps, il y a un autre satellite, Kepler, qui a été lancé par la NASA, et lui qui était encore plus performant, qui a été lancé en 2009 et qui a vraiment fait exploser le nombre de détections.
Ah ouais.
Et il y en a encore des milliers qui sont en attente de confirmation, comme je te disais, qui ont été observés une fois par Kepler.
Ouais.
Bon, Kepler maintenant n'a plus de carburant, donc il a terminé sa mission. Mais il y en a une autre qui est en cours, qui s'appelle TESS, T pour transit.
Donc ça, c'est avec des transits, quoi, ça, voir la luminosité diminuer.
Ça, c'est la méthode qui a donné le plus d'exoplanètes, mais ce n'est pas la seule, parce que, comme je te l'ai dit, elle ne permet pas de les voir toutes. Il n'y a à peu près que 5% qui passent devant leur étoile vue de chez nous. Donc, on veut voir les autres, il faut trouver d'autres méthodes.
D'accord.
Alors, il y en a une qui est intéressante, qui est l'astrométrie, une discipline qui existe depuis l'Antiquité, qui consiste simplement à déterminer la position des astres le plus précisément possible.
Mmh.
D'accord ? On repère chaque étoile par deux angles, très précisément. Bon. Mais ce qu'on sait faire maintenant avec la précision des mesures qu'on a depuis seulement quelques années,
oui,
c'est détecter les déplacements d'une étoile sous l'effet des planètes qui orbitent autour d'elle.
Ah, le même principe que pour les vitesses radiales.
Le même principe, sauf que si cette fois... on voit la planète tourner autour de son étoile vue de dessus. Alors, on ne voit pas la planète,
ah oui,
mais cette fois, l'étoile, elle va dessiner des petits cercles. Elle va...
oui. Au lieu de se rapprocher de nous et de s'éloigner de nous, elle va bouger sur place, quoi.
Elle va bouger autour d'un point. En fait, cette idée, elle est très ancienne. Hein. William Herschel, tu sais, notre vieil ami,
sur qui on a fait
un bel épisode, il voyait des étoiles doubles qui tournaient l'une autour de l'autre. Ça se voit bien.
Ben oui.
Et il a vu certaines étoiles qui tournaient autour de rien du tout.
Ah.
De ce qu'il appelle un unseen companion.
Hein, un compagnon invisible.
Et donc, il avait soupçonné que ça pouvait être des planètes. Dans le principe, il avait raison, mais en fait, sa précision n'était pas du tout suffisante pour voir ça. Après
D'accord.
coup, on s'est aperçu qu'il s'était trompé. Ce n'était pas ça.
D'accord.
Mais l'idée était bonne. Et c'est ce qu'on a repris maintenant. Et en particulier, il y a un satellite qui est actuellement en fonctionnement, qui s'appelle Gaïa,
mmh,
qui est le summum du top de l'astrométrie qu'on sache faire actuellement.
Ouais.
et qui est chargé de cartographier pratiquement tous les objets qu'on peut voir dans le ciel. Enfin, sa mission, ça va être de faire 1 milliard de positions avec une précision de 1 cent milliardième. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu abstrait. Ça veut dire qu'il verrait l'épaisseur d'un cheveu à 1000 km, par exemple.
Ah oui. Alors, je tiens un cheveu et quelqu'un se met...
Alors, il ne verrait pas le cheveu parce qu'il n'y a pas un télescope pour voir. Il voit des positions. Donc, si tu te mets à Lille en tenant une lampe de poche à la main et qu'il y a quelqu'un, enfin, que Gaïa t'observe depuis Marseille, si tu trembles de l'épaisseur d'un cheveu, il va s'en rendre compte.
Ah ouais.
C'est pas mal.
Ça calme.
Ça calme. D'accord. Alors, en fait, bon, lui, il n'est pas à Marseille ou à Lille. Il est à 1,5 million de kilomètres de nous, un point particulier qui tourne autour du Soleil en même temps que la Terre pour voilà, être toujours bien placé par rapport à la Terre.
D'accord.
Et donc, ça veut dire qu'à cette distance-là, il peut voir à peu près 1 cm sur la Terre.
C'est ah oui.
Donc, voilà, quand tu clignes des yeux, il peut voir ta paupière qui se déplace alors qu'il est à 1,5 million de kilomètres.
Okay.
C'est quand même assez phénoménal.
D'accord.
Et donc, il transmet des données sur Terre en permanence.
Ah, transmet, oui. Son catalogue, quoi.
Son catalogue, voilà. Plusieurs dizaines de gigaoctets tous les jours.
Ah, génial.
Et donc, au passage, quand il retourne sur une étoile qui a bougé, il peut détecter qu'il y a des exoplanètes autour et calculer leur trajectoire.
D'accord.
Et en plus des positions, il mesure aussi la luminosité de tous ces objets qu'il détecte. Et donc, il peut aussi faire la méthode des transits.
D'accord.
Donc, c'est vraiment un instrument fabuleux.
Ouais. Donc, les transits ou alors le déplacement de l'étoile. Alors,
il y avait aussi la méthode de vitesse des pulsars dont j'avais parlé avant.
Ah bah oui.
Et dans le même style, une fois qu'on a détecté une exoplanète autour d'une étoile, on peut mesurer très précisément le temps au bout duquel elle revient. Par exemple, s'il y a un transit, et les transits vont revenir à intervalles réguliers.
Bien sûr.
Et il peut y avoir des toutes petites variations là-dedans s'il y a une deuxième planète.
Ah oui, une fois que tu en connais une, tu peux chercher les autres.
Voilà, parce qu'elle perturbe, un peu comme dans notre système solaire, quand on avait trouvé Uranus, on avait vu qu'il y avait des petites variations dans son mouvement, on a calculé qu'il devait y avoir Neptune plus loin qui la perturbait. Ça, c'était au 19e siècle. Mmh. Ben maintenant, on arrive à faire la même chose autour d'autres étoiles.
Ah oui, c'est quand même costaud.
Ouais. C'est quand même costaud.
D'accord.
Alors sinon, il y a encore une autre méthode qui est complètement différente.
Oui.
La méthode des lentilles gravitationnelles.
Les lentilles. Le plat de lentilles.
Pas le plat de lentilles, non. On est dans l'astronomie, là, quand même. Donc, une lentille, c'est un objet en verre qui dévie les rayons lumineux qui passent au travers.
C'est vrai.
Une lentille gravitationnelle, ça veut dire que c'est la gravitation qui va dévier la lumière.
Ah oui, on en avait parlé un peu pour les trous noirs, non ? C'est du genre, si tu as quelque chose qui émet de la lumière, mais qu'entre lui et nous, il y a un trou noir, eh ben, ça va dévier la lumière et on ne la voit pas pareil.
Et ça va déformer l'image de ce qui est derrière.
C'est ça.
Maintenant, si à la place du trou noir, tu mets simplement une étoile.
Donc, une autre étoile ?
Voilà, il y a une étoile très lointaine, cela ne nous intéresse pas spécialement. et puis, il y a une étoile plus proche qui, tout à fait par hasard, est
alignée avec
presque une... alignée.
Ouais.
On la voit presque dans l'axe. La lumière de l'étoile lointaine, en passant à côté de l'étoile proche, elle va être un peu déviée. Et donc, si cette étoile qui est devant bouge très légèrement, ça va nous apprendre des choses, non pas sur cette étoile derrière, mais sur celle qui fait la lentille.
Qui est entre les deux. Ah ouais.
Si tu veux, c'est comme si tu regardes un objet à la loupe et la main qui tient la loupe tremble légèrement. Du coup, ça fait trembler l'image.
D'accord.
Et ce qui t'intéresse, ce n'est pas ce que tu vois dans cette image, c'est ce que ça t'apprend sur les tremblements de la loupe.
Ah oui, ah oui. Donc en fait, on regarde une étoile pour en observer une autre.
En quelque sorte. Et donc maintenant, évidemment, tu me vois venir avec mes gros sabots.
Oui, parce les tremblements, que si elle bouge, voilà.
Qu'est-ce que ça peut être ?
C'est une planète qui tourne autour.
T'as tout gagné.
D'accord.
Alors, l'intérêt aussi d'avoir plusieurs méthodes différentes, c'est qu'elles fonctionnent plus ou moins bien selon les types de planètes. Je t'avais dit que la vitesse radiale, là où ça marche le mieux, c'est pour une grosse planète qui est proche de son étoile.
C'est vrai.
Si on prend l'astrométrie, c'est-à-dire là où on regarde les déplacements de l'étoile, sa position dans le ciel, c'est le contraire. Plus la planète est loin, plus elle va faire des grands déplacements à son étoile.
Donc, ah oui.
Les déplacements sont peut-être moins rapides, mais ils seront d'une plus grande amplitude, et donc on les verra plus facilement.
D'accord. Enfin, tout ça, je trouve ça sacrément compliqué. On ne pourrait pas les regarder directement, quoi, tout simplement.
On peut aussi, c'est vrai. Je n'ai pas parlé de cette méthode parce qu'elle est aussi plus récente. On a essayé pendant longtemps. Il faut dire que ce n'est pas très, très facile quand même. Parce que quand tu regardes dans le ciel, regarde Vénus, qui est la planète la plus brillante, et compare ça au Soleil.
Le soleil est plus, encore plus brillant.
Bah, beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire
d'accord.
Quand il y a le soleil dans la journée, il n'est pas question qu'on puisse voir Vénus. On est complètement ouais. ébloui.
Okay.
D'une façon générale, une planète à côté de son étoile, la planète, d'une part, elle est beaucoup plus petite.
Oui.
Et d'autre part, elle n'émet pas de la lumière par elle-même. Elle ne fait que réfléchir à la lumière de l'étoile.
Oui.
Ça fait que globalement, elle est beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup
moins lumineuse.
D'accord. La comparaison qu'on prend souvent, c'est si tu prends un phare au bord de la mer, hein,
ouais.
une lampe qui est faite pour éclairer à des dizaines de kilomètres,
ouais.
et au pied du phare, tu poses une bougie.
Oui.
Alors maintenant, tu te recules, parce que tu n'es pas juste à côté, tu vas à, disons, 1000 km de là.
Oui, encore les 1000 km.
Encore les 1000 km, etc. Oui, non, mais c'est une comparaison qui marche bien. Et donc, déjà à 1000 km, il te faut un bon télescope pour arriver à voir le phare.
Oui, c'est vrai.
Et tu essaies de voir la bougie qui est posée à côté.
Ah oui, oui.
C'est pas simple.
Oui, voilà. D'accord. Donc ben, ça, on oublie quoi ?
Ben, on n'oublie pas. Enfin, on y arrive quand même.
Oula.
Dans des conditions favorables, il faut que la planète soit assez grosse. Bon, ça, c'est normal. Et qu'elle soit loin de l'étoile. Plus elle est loin, plus ça va être facile.
Ben oui.
Il faut que l'étoile ne soit pas trop lumineuse.
Oui.
Il y a des tas de familles d'étoiles différentes. Hein. Il y a des naines, des géantes, des rouges, des blanches. Bon, moins elle est lumineuse, mieux ça va marcher. Ouais. Et puis, l'astuce, c'est qu'on ne va pas forcément l'observer en lumière visible.
Oui.
On va plutôt l'observer en infrarouge.
Ah.
Alors l'infrarouge, tu sais, c'est lumière qui est émise par les corps qui sont chauds, mais pas trop trop chauds, comme notre corps par exemple.
D'accord.
Et les étoiles, donc, elles sont très très chaudes, elles émettent beaucoup plus dans d'autres gammes d'ondes, mais elles émettent relativement peu en infrarouge.
Ah, elles sont trop chaudes pour faire beaucoup d'infrarouge.
C'est ça.
D'accord.
Alors que les planètes, typiquement, elles sont dans la bonne gamme de température pour envoyer des infrarouges.
D'accord. Et donc, on est arrivé à voir des planètes comme ça en infrarouge ?
Et donc, voilà, on a des photos de planètes où on voit vraiment la planète directement. C'est plus de la détection, comme toutes les autres méthodes dont je t'ai parlé, hein, c'était indirect. On voit que la planète perturbe son étoile. Et sur quelques dizaines de planètes, là, on a vraiment la photo directe de la lumière qui provient de la planète.
Ah ouais !
Ça, on le fait avec un instrument qui, en fait, dans son principe, existe depuis très longtemps.
Oui.
Ça s'appelle un coronographe.
La couronne, c'est ça ?
Oui, parce qu'au départ, l'instrument a été inventé pour observer la couronne du soleil.
Ah.
C'est ce qu'on voit pendant les éclipses. Tu sais, quand la Lune masque vraiment la partie brillante, ouais. Et ben, les astronomes avaient envie de voir ça, même quand il n'y avait pas d'éclipse.
Donc, c'est le même principe, on met un masque.
Exactement. Dans le principe, c'est très simple. Hein. Tu prends ton télescope, tu dessines un rond noir à la peinture au plein milieu et ça cache le centre du soleil et tu vois ce qu'il y a autour.
Ça sera bien opaque. Hein.
Mais en pratique, ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a des problèmes de diffusion, la lumière qui arrive sur les bords et
il faut dévier.
Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le problème a été résolu seulement en 1931.
Ah oui.
C'est quand même pas si vieux que ça hein, dans l'histoire de l'astronomie, par un certain Bernard Liot. Qui a inventé ce coronographe, c'est-à-dire cet instrument qui permet de masquer le cœur du soleil pour observer sa couronne.
D'accord.
Et là, on a repris exactement le même principe. On masque
l'étoile pour regarder la planète.
Voilà, c'est le même principe, sauf que c'est évidemment beaucoup plus compliqué sur une étoile relativement faible que sur le soleil qui est très très lumineux. Mais voilà, le meilleur instrument qui fait ça actuellement s'appelle SPHERE. C'est encore un acronyme. Et c'est un instrument qui est à terre, lui, il n'est pas dans l'espace. Il est au Chili, dans le désert d'Atacama. Et c'est un coronographe qui est monté sur le VLT, le Very Large Telescope.
Le très grand télescope.
Très grand télescope, qui est un instrument européen, mais situé au Chili.
D'accord.
Et c'est lui qui a fait la plupart des images directes d'exoplanètes qu'on a actuellement.
Ah, ok. Bon, alors, du coup, tu m'as dit plein de méthodes.
Tu crois que tu vas arriver à combiner tout ça dans un couplet ? Ça va être un peu indigeste.
Je vais peut-être pas toutes les mentionner. alors attends, laisse-moi réfléchir. Can an unseen companion?
Se peut-il qu'un compagnon invisible
cause your pendular motion?
Cause votre mouvement pendulaire?
Does your gravitational lens?
Est-ce que votre lentille gravitationnelle
make a distant star's light dance?
Fait danser la lumière d'une étoile distante?
Voilà, j'ai essayé, tu vois, de faire une descente chromatique à la basse. Mais ce n'est pas encore complètement au point, il va falloir que j'y réfléchisse. Alors, pour faire une basse comme ça qui descend en passant par tous les demi-tons, on a plusieurs stratégies possibles. Bah, déjà, la plus simple et la plus évidente, c'est de renverser certains accords.
Tu renverses un accord ?
Oui, c'est-à-dire que tu changes l'ordre de ces notes. Par exemple, si je prends un accord de La.
La, ça fait la, do, mi.
Voilà, un accord de la mineur, la, do, mi. Ok. Donc là, je vais mettre un la à ma basse. Mais si derrière, par exemple, je veux faire un accord de mi, mi majeur.
Mi, ça fait mi, sol, si.
Alors, mi, sol, si, ça serait mi mineur, mais je vais rajouter un sol dièse pour faire mi majeur, pour avoir vraiment mes quatre demi-tons entre la fondamentale et la tierce. Donc, dans mon accord de mi, il y a un mi, il y a un sol dièse, il y a un si. En principe, ma basse, elle devrait aller de la vers mi. Mais au lieu d'aller du la vers le mi, je vais utiliser une autre note de l'accord. Je vais utiliser mon sol dièse, justement.
Ah, parce que tu veux descendre d'un demi-ton à partir de
exactement.
Là, t'arrives sur le sol dièse.
Et du coup, si je joue mon accord de mi, mais en mettant le sol dièse à la basse, on a vraiment entendu ma note grave qui descend vers une note juste à côté. D'ailleurs, c'est ce que fait Beethoven. Hein. Tu sais, dans une symphonie, tu vois, il aurait très bien pu faire à la basse. La, 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 mi, mi. Ça fait pas une fausse note, mais c'est moins fin, c'est moins élégant de faire la, 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 sol dièse, tu vois, la touche nord juste à côté du la.
Bah, si Beethoven l'a fait, alors faut pas que tu te prives. Hein.
Voilà, et Beethoven le fait, et Jobim le fait, mais alors encore plus. Hein. Et comme Jobim, il utilise des accords de 4 notes différentes, de 5 notes différentes, ça lui donne d'autant plus de choix. Parmi toutes ces notes, il peut piocher dans une qui va exactement au bon endroit dans sa ligne de basse. Ça, c'est une première stratégie. Il y a une autre stratégie qui est extrêmement sophistiquée et élégante. C'est ce qu'on appelle la substitution triton.
Triton ?
Oui.
Comme la salamandre ou comme le satellite de Neptune
c'est... Alors, le triton, c'est quoi ? C'est un intervalle. C'est un intervalle qui fait 3 tons. C'est-à-dire 6 demi-tons.
Ah, c'est pas comme le triton qui vit dans l'eau. C'est...
Voilà, par exemple, si tu fais de Fa à Si sur un clavier de piano, tu vois bien que Fa, Sol, La, Si, ça te fait 3 tons.
Ouais.
Ça te fait 6 demi-tons. Moi, je préfère compter les demi-tons, comme ça, on ne se perd pas dans les touches planches et les touches noires. Alors, si je joue un enchaînement typique, par exemple, je suis en Do majeur, je vais faire la deuxième note dans ma gamme de Do, donc c'est Ré. Je vais faire un accord de Ré, donc ça va me faire Ré, Fa, La. Et après, je vais faire un accord de Sol, ça c'est la cinquième note dans ma gamme, le cinquième degré.
Oui.
Et enfin, je vais finir par mon accord de Do, Do, Mi, Sol. Alors, cet enchaînement-là, donc si je prends juste les numéros des degrés, ce qu'on met en chiffres romains en général dans l'analyse harmonique, c'était 2, 5, 1.
Ah, mais attends, ça me rappelle la succession d'accords dont tu m'avais parlé, l'anatole.
Oui, l'anatole, c'est 6, 2, 5, 1. Là, si je prends juste les trois derniers, 2, 5, 1.
C'est la fin d'un anatole.
Exactement. Si, au lieu de jouer d'ailleurs juste l'accord de Sol, l'accord parfait Sol, Si, Ré, je rajoute une septième. C'est quoi la note ?
Fa.
Voilà, donc Sol, Si, Ré, Fa. Regarde bien à l'intérieur de cet accord, j'ai un triton entre le Si et le Fa.
Oui.
Il y avait le sol en bas, le si c'est ma tierce, le fa tout en haut c'était la septième, ok ?
D'accord.
Mais comme ça fait 6 demi-tons et que 6 c'est la moitié de 12,
oui.
Je pourrais très bien renverser au lieu de jouer si en bas, fa en haut, je vais jouer un fa en bas et un si en haut.
Et du coup ça fait le même intervalle ?
C'est exactement le même intervalle.
Alors que tu l'as renversé.
Voilà. Et du coup, mon Fa, c'est plus ma septième, maintenant ça va être la tierce. Je vais rajouter le Ré bémol qui est en dessous. Ça me fait encore exactement le même accord que quand j'avais le Sol, le Si, le Fa. Mais maintenant, c'est plus un accord de Sol, c'est un accord de Ré bémol. Et j'ai toujours les deux mêmes notes, le Fa et le Si, dans cet accord. Simplement, la note grave, c'est plus un accord de Sol, c'est un accord de Ré bémol. En principe, un accord de Ré bémol, il n'a rien à faire quand tu es dans une gamme de Do majeur. Tu n'as pas de touche noire, tu n'as rien, quoi. Mais je vais reprendre mon enchaînement. Donc, je faisais 2, 5, 1. Si je regarde juste la basse, ça faisait Ré, Sol, Do. Et maintenant, je vais remplacer, donc substitution, hein, je vais remplacer l'accord de Sol par mon accord de Ré bémol. Et maintenant, la basse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait Ré, Ré bémol. Do.
Donc là, tu descends d'un demi-ton à chaque fois.
Exactement. Et ça me fait une ligne de basse qui descend de façon chromatique, comme je disais tout à l'heure.
Tout en retrouvant à peu près les mêmes accords.
À peu près, mais écoute bien. Ça, c'était la version d'origine, la version, on va dire, classique. Hein. Et maintenant, avec ma substitution triton,
ça donne une couleur très différente quand même.
C'est différent, c'est plus sophistiqué. Hein. On sent que c'est plus moderne, que c'est plus recherché. Et alors ça, j'aime bien dire qu'Antonio Carlos Jobim, il s'en sert énormément. Si je prends par exemple la fin de la chanson The Girl from Ipanema. Donc ça fait... Et là, j'ai mon 2. Mais lui, il ne va pas faire ça. Écoute bien ma basse. J'ai fait cette petite descente chromatique. Et d'ailleurs, il va rester dessus à la fin. Il va faire... Voilà. Voilà. Et ça... Toute la sophistication de la bossa nova se trouve dans cet enchaînement, cette petite substitution. On la trouve aussi dans le jazz, hein, de façon générale. On la trouve aussi dans la musique savante, chez des gens comme Maurice Ravel, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui est particulièrement savoureux dans la bossa nova. Bon, donc si je comprends bien, ces 20 ou 30 dernières années, c'est la ruée vers les exoplanètes.
Et ça continue.
Mais bon... À part le fait d'en découvrir le plus possible pour le sport, si j'ose dire, est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose, au fond ?
Oui, alors ce qui intéresse beaucoup les astrophysiciens, et puis même le public en général, c'est de comprendre nos origines, comment s'est formée la Terre, le système solaire, d'où vient la vie, etc. Et là, le fait d'avoir un regard extérieur, ça beaucoup élargit nos hypothèses, ça nous a conduit à revoir des théories. Principalement, en fait, si tu considères la formation du système solaire.
Oui.
Moi, quand j'étais petit, on m'a appris un modèle qui marchait vachement bien.
Ouais.
Alors, dans le système solaire, il y a quatre planètes
rocheuses
qui sont relativement petites et proches du Soleil.
Voilà.
Et puis les quatre autres qui sont
gazeuses,
qui sont beaucoup plus grosses et loin du Soleil.
Ok.
Et ça, on nous expliquait très bien pourquoi c'était comme ça.
Oui.
En disant, voilà, à l'origine, quand les planètes se sont formées, il y avait des mélanges de roches et de glace. Celles qui sont proches du Soleil, il faisait chaud, les glaces se sont évaporées, sont sublimées, sont parties. Et du coup, il est resté une masse de roches qui était relativement petite et donc pas suffisante pour retenir l'hydrogène et l'hélium, qui sont des gaz légers. Par contre, celles qui sont plus loin, il y avait un gros noyau de glace et de roches qui sont restés gelés et donc qui étaient beaucoup plus lourds.
Ça a accumulé du gaz.
Ça a conservé l'hydrogène et l'hélium parce que c'était assez lourd pour les retenir.
Ok.
Impeccable, ça marchait bien.
Tout à fait.
Et donc, on s'attendait à ce que dans tous les systèmes stellaires, il y ait plutôt des planètes rocheuses près de leur étoile et des planètes gazeuses loin de leur étoile.
Bah, comme chez nous, quoi.
Or, rappelle-toi, la première...
Ah oui, Dimitri, là.
Dimidium.
Voilà, Dimidium.
Pegasi 51b, si tu veux.
Oui.
Elle est pratiquement de la taille de Jupiter.
Oui.
Et elle est 20 fois plus près du Soleil que la Terre.
Ah, on a un problème, là.
Ah, on a un gros problème.
C'est une grosse planète, probablement gazeuse, du coup.
Oui.
Et qui est tout près de l'étoile.
Donc ça ne marche pas du tout avec notre modèle.
Ah, bah oui.
C'est ce qu'on appelle maintenant un Jupiter chaud.
C'est comme les hot dogs de Jupiter.
Voilà. C'est-à-dire une taille comparable à Jupiter,
mais
une beaucoup plus chaude près de son étoile. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec ce vieux modèle de formation du système solaire. Donc, dès qu'on a découvert ça, forcément, tous les spécialistes des systèmes planétaires se sont mis au boulot en disant il faut qu'on révise nos modèles de formation.
Voilà.
Ça, c'est génial en science, quand on a quelque chose qui réfute une théorie et admise. Et là, c'est lié au fait qu'en astrophysique, en général, on ne peut pas faire des expériences comme en laboratoire. On ne peut pas dire, je vais mettre dans mon labo 20 systèmes solaires différents, puis je vais voir comment ils évoluent. Alors, le fait de pouvoir observer plein d'autres systèmes, effectivement, ça a permis surtout de voir à quel point c'était varié. Tu te rappelles le texte de Fontenelle que tu m'as lu tout à l'heure ?
Oui, oui.
Il anticipait, il soupçonnait que les tourbillons, comme il dit, les systèmes stellaires, seraient très, très différents les uns des autres, en nombre de planètes, en distance de planètes à leur étoile, etc.
Ouais.
Et il avait tout à fait raison. Et ça, on le sait maintenant parce qu'on en a observé des milliers.
Ouais.
Ça suffit déjà à ce qu'on soit obligé de faire des modèles qui rendent compte de tout ça.
Et alors, ça veut dire que chez nous, on aurait eu aussi Jupiter et Saturne tout proches du Soleil.
Alors c'est possible. Alors, en tout cas, ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'il y a des migrations de planètes. Elles ne se forment pas sur les orbites où on les voit maintenant.
C'est comme les hirondelles.
Par exemple, Jupiter aurait très bien pu se former beaucoup plus près du Soleil et après, sous l'action de l'influence gravitationnelle d'autres planètes, être plus ou moins éjectée, partir plus loin. Alors, il y a plein de modèles actuellement. C'est vraiment difficile de dire qu'il y en a un qui est admis, qui domine.
Ouais.
Par exemple, la ceinture d'astéroïdes, c'est intéressant ça. Dans notre système solaire,
oui.
Entre Mars et Jupiter, il y a un espace où on pourrait s'attendre, d'après les positions des autres planètes, à ce qu'il y ait une planète à cet endroit-là.
Oui.
Et en fait, il n'y en a pas, mais il y a un très très grand nombre d'astéroïdes.
Oui, tout à fait.
Et ça, on se demande depuis longtemps, est-ce que c'est une planète qui a commencé à se former, mais à cause de l'influence de Jupiter, les morceaux n'ont pas pu se coller, ou au contraire, une planète qui s'est formée et qui s'est désagrégée. Ou... Bon. Et on a découvert tout récemment un système autour de notre étoile où il semble bien qu'il y ait une grosse planète au milieu d'une ceinture d'astéroïdes.
Ah bon ? Donc ça pourrait quand même exister ?
Ça pourrait exister, et ça irait plutôt dans le sens de dire que la ceinture d'astéroïdes, c'est des bouts de la planète qui sont détachés, qu'il y a une grosse collision. Donc c'est peut-être ça qui s'est produit chez nous, alors qu'on pensait que ce n'était pas possible.
D'accord.
En tout cas, ce qui est certain,
oui.
qui est bien acquis, c'est que c'est plus compliqué que ce qu'on croyait.
D'accord.
Que le fait que chez nous, il y a des planètes rocheuses près de l'étoile et des planètes gazeuses loin,
oui.
c'est vraiment un cas particulier, ce n'est pas du tout une règle générale.
D'accord.
Il y a aussi que nos méthodes de détection d'exoplanètes ont des limites, donc par exemple, on détecte beaucoup plus de grosses planètes que de petites.
Ah ben oui.
Et donc, au fur et à mesure que nos méthodes vont s'améliorer, on va changer aussi la vision qu'on a de ces autres systèmes. Peut-être qu'il y en a où on sait actuellement qu'il y a deux planètes, on va découvrir qu'il y en a 12, mais les autres sont plus petites, etc.
D'accord.
C'est vraiment en pleine mutation, ce domaine.
Donc, ça nous apprend des choses sur la formation de notre système à nous et des systèmes en général, quoi.
On a découvert aussi quelque chose qui était assez étonnant. Des planètes errantes, c'est-à-dire des planètes qui se baladent dans l'espace, mais qui ne sont pas autour d'une étoile.
Ah bon ?
Alors, du coup, on ne peut pas vraiment les appeler des planètes,
parce
que la définition d'une planète, c'est que ça tourne autour d'une étoile. Ce serait, disons, des intermédiaires entre une grosse planète et une petite étoile,
ouais.
et qui se baladent.
D'accord.
Ça, c'est pareil, on n'a pas ça chez nous, mais il faut qu'on trouve des modèles qui expliquent d'où est-ce qu'elles viennent. Est-ce qu'elles ont été éjectées alors qu'elles étaient autour d'une étoile ? Est-ce qu'elles se sont formées toutes seules ? On ne sait pas trop.
Oh, bah, ça, je pourrais peut-être le dire en quelques lignes, tout simplement. These exotic systems,
tous ces systèmes exotiques,
have given us a whole new sense,
nous ont donné une toute nouvelle vision
of how this world did commence,
de comment ce monde-ci a commencé.
Voilà. Alors, de la même façon que, comme je t'ai dit, Antonio Carlos Jobim, souvent il essaye d'éviter la cadence parfaite. Il va substituer, remplacer, au lieu de faire sol, do, il va faire ré bémol, do. Il y a d'autres stratégies pour éviter la cadence parfaite. Par exemple, tu te souviens quand j'avais retourné l'Anatole ?
Ah oui, tu jouais les quatre accords dans l'ordre inverse.
C'est ça, au lieu de faire sol, do, je vais aller de do vers sol.
Ensuite, vers Ré.
De Sol vers Ré, et puis après,
vers là,
etc., etc. Donc ces enchaînements un petit peu retournés à l'envers, j'ai bien envie de les utiliser maintenant. Au lieu de faire... Si je prends à l'envers, ça ferait... Donc ça fait des enchaînements qui sont un peu plus inattendu.
C'est étrange aussi. Hein.
Oui, parfois ça fait franchement maladroit, mais je vais essayer de faire oublier ça. C'est ce que j'ai essayé d'utiliser ici. Hein. J'aurais pu faire. Ça serait l'enchaînement classique, mais moi j'ai fait. Ce qui est un tout petit peu plus recherché. Et après, je suis allé chercher des accords encore plus tordus. Etc. etc. Des accords comme ça au passage. Ça, c'est mon fameux accord mineur, mais avec une neuvième rajoutée. J'adore cet accord, tu sais. Ouais, j'en raffole, j'en casse partout. Voilà, donc je suis bien content de le retrouver ici. Bon, mais finalement, Nicolas, pour en revenir au vif du sujet, est-ce qu'on va enfin trouver des extraterrestres ?
C'est une question
c'est qui... celle qui m'intéresse, moi.
C'est une question qui intéresse un certain nombre de gens. Après, bon, des extraterrestres, déjà, il faudrait qu'on sache bien définir ce que c'est que la vie. Si on veut définir des êtres vivants. Parce que c'est un peu comme je te disais tout à l'heure sur le système solaire, on n'en connaît qu'un, et donc tant qu'on n'en a pas vu d'autres, on a des idées très figées.
Oui.
La vie, ben, on n'en connaît qu'un exemple. On parle des molécules à base de carbone, des longues chaînes carbonées.
Des cellules.
En solution dans l'eau.
Oui, puis j'ai toujours entendu dire que sans eau, il n'y aurait pas de vie. Quoi. Il faut chercher de l'eau. Voilà. Ah, on va sur Mars, il faut chercher de l'eau.
Exactement. Donc ça, c'est la première chose qu'on s'est demandé. Les exoplanètes, comment savoir s'il peut y avoir de l'eau liquide, hein, parce que
oui.
De la glace ou de la vapeur d'eau, ça, il y en a partout. Mais l'eau liquide, ça demande quand même des conditions assez particulières.
D'accord.
Donc, une première chose qui est relativement simple, c'est de se demander quelle est la température qu'il fait sur la planète. Et ça, on peut l'estimer à partir de la distance où elle est de son étoile.
Ah bah oui.
Et puis de la luminosité de l'étoile. Il y a des étoiles qui sont plus chaudes que d'autres.
Oui.
Donc le Soleil, ben, on sait qu'à 150 millions de kilomètres, on est pas mal. Quand on est plus près, il fait un peu trop chaud. Plus loin, il fait un peu trop froid.
Ouais, il faut trouver pile le bon endroit.
Ce qu'on appelle la zone d'habitabilité au sens très vague de « il pourrait y avoir de l'eau liquide
ouais. ».
En plus, la température, ça ne dépend pas que de la distance de l'étoile. Hein. Sur Vénus, il fait très très chaud, plus chaud que sur Mercure, alors qu'on est plus loin du Soleil.
Oui, d'accord.
Ça dépend de plein de facteurs. Bon. Après, il y a la tronche de la planète. Parce que si on est sur Jupiter, par exemple, une géante gazeuse, on n'est pas très à l'aise pour vivre des gens comme nous. En tout cas, nous, on a besoin d'une surface solide pour être dessus.
Oui, pourrait y avoir des bébêtes en suspension dans les gaz.
Pourquoi pas on a bien des bactéries qui vivent dans nos nuages.
Oui.
Ce n'est pas impossible. Mais on a un peu plus de mal à les imaginer.
Donc déjà, savoir s'il y a vraiment le plancher des vaches bien solide, bah, comme la Terre, en fait. Il y en a des qui ressemblent à la nôtre, peut-être.
Alors ça, c'est toute la question, effectivement. Très régulièrement, on nous annonce « Ah, ça y est, maintenant, on a trouvé une planète qui ressemble à la Terre. »
Ouais.
Sous-entendu, il peut y avoir de la vie dessus.
Aha.
Les premières fois où on annonçait ça, ça voulait dire une planète à peu près de la taille de la Terre.
Ouais.
C'était déjà pas mal, puisque les premières qu'on a détectées, elles étaient beaucoup plus grosses.
Hein.
C'était des Jupiter. Donc quand la précision s'est améliorée, qu'on a eu des planètes deux fois, trois fois plus grosses que la Terre, ça y est, il y avait des gros titres dans les journaux, on a découvert une planète qui ressemble à la Terre. Bon, qui ressemble si on veut.
D'accord.
Après, c'était les premières planètes de la taille de la Terre, et dans la zone d'habitabilité de l'étoile.
Ah,
ça, c'est encore mieux.
Ça
parce que du coup, il peut y avoir de l'eau liquide.
Et oui.
Et à chaque fois, on laisse croire qu'il y a de la vie dessus. Bon, en fait, on n'en sait fichement rien.
Ouais.
Ensuite, par exemple, si une planète tourne toujours la même face à son étoile, comme la Lune tourne toujours la même face à nous, et ça, on pense que c'est quelque chose qui est assez répandu. Il y a beaucoup de planètes qui doivent être comme ça.
Verrouillées
par la gravitation, exactement. À ce moment-là, ce n'est pas très favorable parce qu'il va y avoir un côté qui prend tout le temps la chaleur, qui va être très très chaud, et l'autre qui ne voit jamais le soleil, l'étoile, qui va être très très froid.
Ouais.
Et ça, ce n'est pas facile de le savoir non plus. Si c'est fait ou pas. Bon, il y a plein de conditions comme ça. Je t'ai dit qu'il fallait qu'on ait un sol solide, mais nous, on est content aussi d'avoir une atmosphère dessus.
Ah ben oui, ça sert.
Alors, ça sert pour nous. Pour les poissons, ça ne leur sert pas trop. Eux, ce qui leur sert, c'est d'avoir du liquide. Mais savoir ce qu'il y a autour de la croûte de la planète, est-ce qu'il y a du liquide, du gaz ou rien du tout, c'est encore très difficile aussi.
Et puis même si c'est du gaz, ça peut être celui comme sur Vénus, ce n'est pas forcément du gaz très sympa. Donc,
si c'est de l'acide sulfurique, on est mal barré. Alors là, pour le coup, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut arriver à connaître la composition de l'atmosphère d'une planète?
Même pour des exoplanètes?
Eh bien, là on n'est plus du tout dans la spéculation. Il y a vraiment moyen, au moins, de se faire une idée. Comment est-ce qu'on connaît la composition des astres d'une façon générale? Par la composition chimique.
Par leur couleur?
Par leur couleur au sens un peu plus large, c'est-à-dire ce qu'on appelle la spectroscopie. C'est-à-dire qu'on regarde la lumière qui vient de l'astre, on la décompose comme avec un prisme de toutes ses couleurs, et on regarde très très précisément quelle est la quantité, la proportion de lumière à chaque longueur d'onde.
Oui, parce que chaque composant chimique a sa propre signature.
C'est ça. Donc ça marche quand on regarde les planètes autour de nous.
Oui, on n'a pas de mal à les voir.
On n'a pas de mal. Et toutes les étoiles, tout ce qui émet de la lumière qu'on observe dans l'univers, on l'analyse de cette façon-là. Les exoplanètes, on ne les voit pas directement, la plupart du moins. Mais même celles qu'on ne voit pas, quand elles transitent devant son étoile, on a dit que la quantité de lumière qu'on reçoit de l'étoile diminue. Mais elle ne diminue pas uniformément dans toutes les longueurs d'onde. Alors, la partie de la lumière qui est masquée par la planète, celle-là,
on ne la voit pas.
Mais celle qui traverse l'atmosphère de la planète.
Oui, alors le tout petit bord...
quelques kilomètres sur des milliers de kilomètres, ça va faire une fraction de la lumière de l'étoile qui va disparaître, mais pas de façon uniforme.
Oui,
il va manquer un tout petit peu plus de telle longueur d'onde et un tout petit peu moins de telle autre. Ça suffit pour arriver à faire un petit peu de spectroscopie dessus, et donc arriver à se faire une idée de ce qu'il doit y avoir là, dans l'atmosphère de la planète.
Ah ouais, d'accord. Là, c'est...
On va pas rentrer dans tous les détails, mais au moins, quels sont les gaz dominants. Et alors, on est en train de lancer des satellites vraiment spécialisés là-dedans, dont on espère avoir des choses beaucoup, beaucoup plus précises.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer trouver ? Bah, évidemment, si on trouvait une atmosphère qui a une composition identique à la nôtre...
Ouais, ça y est.
Encore une fois, ça y est, on a trouvé des planètes comme la Terre. Bon, mais on n'a pas besoin de ça. En fait, ce qu'on cherche, c'est des biosignatures, ouais. des indications qu'il pourrait y avoir quelque chose qui soit de la vie. Alors, c'est quoi une biosignature ? En fait, les gaz qui sont dans l'atmosphère, oui. ils réagissent chimiquement sans arrêt les uns avec les autres.
Oui.
Et la vie, c'est aussi un ensemble de réactions chimiques, mais qui sont assez différentes, qui vont souvent à sens inverse des autres.
Ah oui, par exemple, la photosynthèse qui produit de l'oxygène.
Exactement. La photosynthèse, elle va prendre du CO2 et le décomposer, renvoyer l'oxygène dans l'atmosphère. Mmh. Et donc, si maintenant, par exemple, on supprimait toute la vie de la Terre, du jour au lendemain, ben l'oxygène, le taux d'oxygène dans notre atmosphère diminuerait assez vite. Au bout d'un certain temps, il n'y aurait plus d'oxygène dans notre atmosphère.
D'accord.
Donc, si sur une autre planète, on découvre qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, déjà, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui le régénère régulièrement.
Aha.
Pas forcément la vie.
Oui.
Il peut y avoir plein d'autres choses.
D'accord.
Des réactions. Mais bon, si en plus, c'est pas que de l'oxygène, mais on trouve par exemple de l'oxygène et du méthane.
Ah.
De méthane, il n'y en a pas beaucoup sur Terre, mais il y en a un petit peu. Et celui-là...
C'est les vaches qui pètent.
C'est les vaches qui pètent, absolument. Qui rotent.
Ah, pardon.
Alors là, l'oxygène et le méthane, quand il y en a ensemble dans l'atmosphère, ils réagissent très vite ensemble. Et donc, si on découvre les deux, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui les renouvelle rapidement.
C'est d'accord.
On continue. Plus on a des combinaisons comme ça de gaz improbables, plus ce serait le signe qu'il y a des phénomènes complexes qui arrivent à les régénérer. Et plus on est dans les phénomènes complexes, plus on se rapproche de la vie, en quelque sorte.
Aha.
Donc c'est ça qu'on recherche actuellement.
Ah, donc il y a quand même une bonne chance qu'on arrive à trouver ce genre de signature un de ces jours.
La probabilité qu'on trouve de la vie, en fait, c'est assez amusant parce que c'est quelque chose qui oscille. Si tu regardes au cours des décennies, il y a des moments où on dit « Oh ouais, c'est presque sûr, il doit y avoir de la vie sur plein de planètes. Finalement, la Terre, c'est une planète comme les autres.
Ouais. »
Et puis d'autres moments où on dit « Non, il y a des choses très, très particulières. La Terre, elle est vraiment très spéciale.
Ah. »
Alors, il y a des conditions. Par exemple, une planète qui aurait une orbite très excentrique, c'est-à-dire qui est tantôt très près de son étoile, tantôt très loin.
Ah, on ça pourrait fait des dire, variations de température.
Voilà, ça ferait comme des saisons beaucoup plus marquées.
Ouais.
On pourrait dire, ça, c'est pas favorable.
Oui.
Or, le fait d'avoir une orbite presque circulaire comme la Terre, c'est plutôt exceptionnel.
Ah.
Et le fait même que dans le système solaire, toutes les planètes ont des orbites presque circulaires, on pense maintenant que c'est plutôt l'exception.
Bon. Ah, bon.
Donc ça plaiderait dans l'idée qu'il n'y a pas... tant de planètes qui peuvent abriter la vie.
D'accord.
Il y a d'autres choses aussi, par exemple le fait d'avoir un champ magnétique.
Oui.
La Terre a un champ magnétique.
Ah ben oui, bien sûr.
Les autres planètes du système solaire n'en ont pas toutes.
Et alors, à part les boussoles, ça change quoi ?
Eh bien, ça change que toutes les petites particules chargées que nous envoie le Soleil qui nous bombardent, elles sont déviées par ce champ magnétique, elles arrivent près des pôles, et sur le reste de la Terre, on est plutôt peinard.
Ah, parce que sinon, tu t'en prends plein la gueule.
Et si tu t'en prends plein la gueule, ça détruit ton ADN. Dès que tu essayes de faire des molécules compliquées pour faire de la vie, elles sont vite détruites.
Ah bon ?
Alors, c'est pas forcément rédhibitoire. Au fond de la mer, on pourrait vivre quand même. Mais voilà, c'est un problème aussi. Donc, le champ magnétique, combien il y a de planètes qui ont un champ magnétique ? Sur les exoplanètes, on ne le sait pas. Il y en a quelques-unes où on a des indices qu'il doit y en avoir, mais on ne sait pas le mesurer.
D'accord.
Autre chose, le rôle de la Lune. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on a fait l'épisode sur la Lune.
Notre copain la Lune.
Ouais. Tu te rappelles ce que je t'avais dit tout à la fin ?
Que ça nous stabilisait.
Exactement. Ça fait que l'axe de la Terre reste toujours à peu près dans la même inclinaison.
Et qu'on a les mêmes saisons et que ce n'est pas trop le bordel.
Voilà. Et que s'il n'y avait pas la Lune, les saisons seraient très marquées à certains moments, moins marquées à d'autres.
Ouais.
C'est moins favorable à l'évolution de la vie.
D'accord.
Pareil, ça n'empêche pas forcément la vie de se développer, mais en tout cas, c'est moins favorable.
Okay.
Et donc, bon, combien il y a de planètes qui ont eu un satellite de la taille de la Lune, on n'a aucune idée, mais probablement pas tant que ça.
D'accord.
Donc tout ça, ça plaide plutôt dans le sens que la Terre est assez particulière et donc il n'y aurait peut-être pas tant de Terres habitables que ça.
Ah.
Alors en sens inverse, les biologistes qui étudient la vie sur Terre, eux, ils découvrent sans arrêt des nouvelles formes de vie à des endroits où on pensait que ce n'était pas possible. Déjà, il n'y a pas si longtemps qu'on sait qu'on peut vivre sans oxygène au fond de la mer.
Ben oui.
Donc ça permet de dire qu'il peut y avoir de la vie sur des planètes où il n'y a pas d'oxygène. Mais on a même découvert des bactéries qui vivent dans le sol très très profondément, à plusieurs kilomètres de profondeur dans le sol, au milieu des roches. Donc il y a des endroits. Alors autant quand on dit on cherche des planètes habitables qui aient de l'eau, de l'air, etc. Ben non, finalement ces bactéries-là, elles vivent très bien dans de la roche.
Mm.
Donc plus on découvre des formes de vie bizarres, exotiques, différentes de la nôtre, plus on se dit qu'il y a des chances qu'on en trouve ailleurs dans l'univers.
Ah oui, et puis ça pourrait être des formes de vie auxquelles on n'a même pas pensé.
Alors, s'il y a des formes de vie qui reposent pas du tout sur l'eau, sur le carbone, ça c'est possible, mais comment les détecter, quoi ? Il faut quand même qu'on cherche des choses qui ressemblent à ce qu'on connaît.
Et finalement, peut-être que ça se passera en sens inverse. Peut-être que c'est des extraterrestres qui vont nous détecter, nous, et qui vont nous envoyer un mail, enfin.
Bon, là, on n'est plus dans le domaine des exoplanètes. Alors, il y a un lien peut-être à faire entre les deux. C'est qu'on peut au moins se demander, oui, si jamais il y a des gens sur une planète qui sont au même stade de développement technologique que nous, c'est-à-dire qui commencent à détecter des exoplanètes vues de chez eux, est-ce qu'il y a une chance qu'ils nous détectent ?
Ah oui ?
On peut se poser la question.
Eh bien oui, c'est vrai, après tout.
Alors après, bon, ils peuvent être beaucoup moins avancés ou beaucoup plus avancés que nous. Hein. Là, c'est un peu un jeu intellectuel de dire, voilà, d'accord, si nous, on était ailleurs, est-ce qu'on verrait la Terre ?
Ouais.
Alors, il y a des gens qui ont fait le calcul très sérieusement. Il y a un article de 2017 où on a calculé d'abord géométriquement, si on utilise la méthode des transits, hein, puisque oui, c'est la méthode qui marche le mieux.
Il faudrait qu'on voit passer la Terre devant le Soleil.
C'est ça. Où est-ce qu'il faudrait être dans l'espace pour pouvoir voir la Terre passer devant le Soleil ? Pas être n'importe où, il faut être dans un certain plan, à une bonne distance aussi, parce que ça ne marche pas si on est trop trop loin, la Terre elle est quand même petite. Okay. Et donc, ils ont fait un calcul géométrique en disant, voilà quelles sont les zones de l'espace où il faudrait être pour, oui, pouvoir détecter la Terre par cette méthode.
Ah oui, et dans ces zones-là, il y a sûrement des planètes qu'on connaît déjà.
Alors après, voilà, c'est la deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a comme planète à cet endroit-là ? Et malheureusement, pour le moment, on n'en connaît pas. Enfin, pour l'instant, il est peu probable que ce soit le cas.
Ah, bon, ok. Alors, je vais essayer quelque chose comme ça. Attention. Noisy light of busy star.
Ah, tu reprends le premier vers, là, la lumière bruitée des étoiles affairées.
Reaching us from far apart.
Qui nous atteint depuis très très loin.
Could you host another earth?
Se pourrait-il que vous abritiez une autre terre?
Another life, another birth.
Une autre vie, une autre naissance.
Je ne sais pas si tu as entendu, mais il y avait des accords un peu déstabilisants. Celui-là, et puis après lui. Tu vois, là on a un enchaînement. Si tu écoutes seulement ma ligne de basse, elle alterne entre ces deux notes, hein, le ré bémol et le sol.
Ah, tu es plus du tout dans les dessins chromatiques de demi-ton en demi-ton comme tout à l'heure.
Non, ça, je vais me le garder pour plus tard. Mais cet intervalle, il est très particulier. C'est pas du tout comme do, sol, do, sol ou sol, do. Hein. Là, je suis sur cette espèce d'enchaînement bizarre avec cet intervalle qui est quoi ? Qui est tout simplement le triton. Encore lui.
Encore lui.
Tu vois, entre ré bémol et sol. C'est quand on remplace l'accord de sol par un accord de ré bémol, c'était la substitution de triton tout à l'heure. Mais moi, je ne substitue pas, je fais entendre les deux successivement. D'abord lui, et après lui. Et en plus, alors évidemment, je rajoute des neuvièmes, des onzièmes, je rajoute plein de notes par-dessus. Alors, tout à l'heure, que ça soit le sol ou le ré bémol, il nous menait vers quel accord dans mon enchaînement ? Tu sais, je partais d'un accord de ré. Après, je faisais soit l'accord de sol, soit l'accord de ré bémol, mais ça se terminait toujours sur
do.
Sur do. Donc là, on tourne entre ces deux accords. Peut-être que ça pourrait aller vers do au bout d'un moment. Ça marche. Mais je ne le fais pas entendre. Jamais je vais résoudre en allant vers ma note. Et du coup, je reste en suspens entre ces deux-là, avec cet intervalle de triton qui est un intervalle assez instable, assez... Pas franchement rassurant. Hein. Et finalement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. J'essaye de ce qu'on appelle de dépolariser mon langage musical.
Ouh là là, attends, polariser, ça veut dire quoi déjà ?
C'est-à-dire qu'on a toujours envie d'aller vers une note, la note qui sert de pôle. Par exemple, si je veux aller vers le do, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si.
Ah, oui, là, il manque une note.
Voilà, on est très attiré vers une note qui nous sert de pôle, comme le pôle magnétique, tu vois.
Alors, dépolariser, ça veut dire que tu fasses en sorte qu'il n'y ait pas cette note, qu'on n'ait pas envie d'aller quelque part plutôt qu'ailleurs ?
Ben, à force qu'on l'évite constamment, on l'évite, et au bout d'un moment, on se retrouve dans une espèce d'apesanteur comme ça. Et y a beaucoup de langages musicaux à partir du XXe siècle, tout ce qu'on appelle la musique atonale, où il n'y a même plus de tonalité, plus d'accord parfait, plus de gamme, où tu peux faire un peu tous les enchaînements de notes que tu veux, parce que
on est hors de ce référentiel, de ce pôle vers lequel on a envie d'aller. Et moi, ça m'intéresse parce que du coup, si je joue juste les accords de ce couplet, et après, je vais faire des enchaînements un peu similaires, donc ça, c'est des harmonies qui sont assez sophistiquées. Je ne pense pas que Jobim aurait été jusque-là. Là, vraiment, je suis dans un style un tout petit peu différent.
Plus moderne.
Oui, plus tordu, tu pourrais dire. Après, je vais me débrouiller pour qu'à la fin, quand même, on retombe sur nos pas et on se dise « Ah, finalement, j'étais là depuis le début.
Ah, » Tu veux quand même repolariser avant de terminer.
Exactement. Par exemple, si je fais... on sent qu'il y a un moment où je suis arrivé à destination. Ça, c'est la cadence parfaite, en fait. Voilà. Sol, do. Très souvent, quand tu écoutes vraiment ce qui se passe à la basse, c'est là que tu comprends ce qui est en train de se passer.
Oui.
Parce qu'il y a tellement de notes par-dessus que ça brouille l'écoute, si j'ose dire.
Absolument.
Voilà. Et donc ça, je vais le faire à l'occasion de toute ma coda, ma partie finale, dans laquelle on va retrouver notamment cet enchaînement de substitution triton. Notamment à la fin de The Girl from Ipanema, la chanson de Jobim.
Avec la descente par demi-temps.
Voilà. Il y a une autre chose dans The Girl from Ipanema. Tu te souviens, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais peut-être faire des gammes qui montent. Comme il fait des gammes qui descendent.
Oui.
Et dans The Girl from Ipanema, à la fin, il y a da-da-da-di-da-da-da-da. Il y a une gamme qui monte comme ça. Donc, je vais faire une citation, une référence à The Girl from Ipanema. Alors du coup, j'en étais resté à Another life, another birth.
Ah oui, une autre naissance.
C'est ça. Et maintenant, sure that would require quite a lot.
Bien sûr, ça exigerait vraiment beaucoup.
A good slot, not too cold, not too hot.
Un bon coin, ni trop froid, ni trop chaud.
A whole bunch of criteria just so.
Tout un tas de critères pour que
we'd meet the right exo.
Nous rencontrions la bonne
exoplanète. The best exoplanète. Just an exoplanète.
Juste une exoplanète.
A fine exoplanète.
Une jolie exoplanète.
Wondrous exoplanète.
Merveilleuse exoplanète.
Et on peut continuer. Faire prolonger la fin aussi longtemps qu'on veut.
C'est un dictionnaire de synonymes, tu dois pouvoir y arriver.
Oui, absolument.
Bon, tu es prêt à envoyer ça à Alexandre ?
Ah, j'espère qu'avec Alexandre, ça va groover.
Noisy light of busy stars, a long time in the rest of hours, sleek scintillating objects, could you be hiding something else? Twinkling little dots turn into slightly darker spots. We've got a chance to take a glance. It may indicate a transit. Radio velocities may help us detect huge bodies. Never mind how complex it is. Can an unseen companion gravitational lens, cause a distant star's light to dance. All these exotic systems have given us a whole new sense of how this world it commands. Noisy light of busy stars reaching us from far apart. Could you host another just so we meet the right exoplanet, the best exoplanet, won't lose exoplanet. planet, just an exoplanet.
C'était Le Modèle Standard par Nicolas Graner et Valentin Villeneuve.
La chanson
Noisy Light of Busy Stars
est interprétée et produite par Alexandre Le Nagar. Cet épisode est diffusé sous licence Art Libre. Retrouvez-nous sur
lemodèlestandard.fr.